Radio Tapis, Grand Témoin.
Il a été procureur de la République affecté à Uvira et à Litassi. Actuellement, il occupe les mêmes fonctions dans la ville de Kindu au Maniema. Jean Moulonga et Kassongo est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. Jean Moulonga, soyez le bienvenu.
Merci.
Comment allez-vous?
Ça va bien.
En 1965, le 1er janvier exactement, vous voyez le jour à Kinshasa. Et pourtant, vous êtes originaire de la province du Katanga. Que signifie votre nom?
Mon nom n'a pas une signification quelconque, mais c'est une rivière du Katanga qui a sa source dans la province du Kasai et va jusque dans la province du Maniema en passant par le Katanga. C'est une rivière mystérieuse.
À l'image de votre travail, on le verra, vous parcourez un peu toute la République.
Oui, un peu, oui, mais plus l'Est.
Et né d'une famille de 4 garçons, aujourd'hui vous êtes marié et père de 4 enfants, quel genre d'enfant étiez-vous?
Bon, j'étais un enfant calme, hein, mais comme tout enfant, il arrivait aussi qu'on commette certaines bêtises hein, qui étaient directement réprimées par les parents, donc un peu calme, mais de temps en temps
turbulent.
Un peu, oui.
Racontez-nous une bêtise d'enfance que vous avez faite.
Oh, il y en a beaucoup, mais je me rappelle souvent de celle que j'avais commise ici vers le pont Gabu, hein, là où il y a le stade des martyrs. Oui. Je revenais de l'école, bon, je me suis mis à attraper des sauterelles et j'avais perdu mon cartable. Et en rentrant à la maison...
Ça vous a valu une bonne raclée.
Oui, des parents.
Quel souvenir vous gardez de votre enfance, Jean Moulongoy?
Oh, beaucoup de souvenirs, hein, surtout l'école à l'Athénée de Lausanne et à l'Athénée de la Gombe. Bon, certains des amis sont disparus que je ne retrouve plus, mais j'ai gardé beaucoup de souvenirs, surtout à la Gombe quand on allait au fleuve, se balader, c'était bon.
Citez quand même quelques noms d'amis que vous avez encore à l'esprit pendant qu'on en parle.
J'avais un ami qui est à l'OFIDA maintenant, c'est Kalalampoy, avec qui on était tout le temps. Il est à l'Occident, mais j'ai perdu quand même ses traces. Oui.
Vous parliez aussi de l'Athénée de la Gombe. Qu'en est-il de vos études primaires et secondaires?
Les études primaires, je les ai faites à deux étapes. C'est-à-dire quand on habitait Kinshasa et Kasavubu, j'ai fréquenté l'école Saint-Pierre, Saint-Pierre des garçons. Et quand on a fait un déménagement vers la commune de Ngaliema, j'ai fréquenté l'école Saint-Christophe à la Cité des Anciens Combattants. C'est là où j'ai décroché mon certificat d'études primaires.
Et les secondaires?
Les secondaires, c'est aussi à l'Athénée de Lausanne, actuellement ITC Ngaliema. C'est là où j'ai eu mon brevet.
En 90, après vos études secondaires littéraires, vous devenez licencié en droit de l'université de Kinshasa, option économique et sociale. Qu'est-ce qui vous attire dans ce domaine?
Dans le droit, d'abord, c'est mon père, hein, qui m'a un peu attiré dans le droit. C'est pas qu'il m'a demandé de faire le droit. C'est un cinéaste, il travaille à la RTNC, mais il achetait beaucoup d'ouvrages de droit. Et, étant aux humanités que je lisais de temps en temps et qui m'avait semblé être une bonne science, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la faculté de droit. Mais il faut dire que, comme l'inscription à l'époque était difficile, j'avais tenté aussi de me faire inscrire en médecine, mais je me dis que je ne serai jamais retrouvé.
Vous ne seriez pas un bon médecin, en tout cas. Alors, pourquoi l'option économique et sociale?
Option économique, comme j'avais fait l'ITC Ngaliema, je voulais faire aussi les sciences commerciales et économiques quand j'étais au CO. Mais c'est après que j'ai fait les littéraires au niveau de l'Athénée. C'est comme ça que je me suis retrouvé en droit et j'ai préféré faire l'option économique et sociale.
En tout cas, comme quoi on ne fait toujours pas ce qu'on voudrait hein, dans la vie.
Bon, c'est la vie qui nous mène, en fait.
Radio Tapis, Grand Témoin.
Il a été procureur de la République affecté à Uvira et à Likasi. Actuellement, il occupe les mêmes fonctions dans la ville de Kindu au Maniema. Jean Moulongoy Kassongo est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. En 91, une année après vos études universitaires, vous êtes nommé magistrat affecté comme substitut du procureur de la République. Quel est le travail d'un substitut du procureur de la République?
Le substitut du procureur de la République, c'est un magistrat du parquet. Donc son rôle, c'est la recherche et la constatation des infractions. Donc quand vous êtes procureur, en pratique, c'est que vous êtes dans un parquet et que s'il y a des faits infractionnels qui sont commis, Il y a le procureur qui gère le parquet, que vous désignez vous pour gérer tel dossier et désignez tel autre. Vous êtes ses substituts. C'est vous qui instruisez, mais sous la surveillance et la direction du procureur de la République.
En 99, vous êtes promu procureur de la République affecté à Ouvira. En 2002, vous êtes affecté à Likassi et depuis novembre 2004, vous occupez les mêmes fonctions à Kindu. Quel est l'état de la justice dans les provinces, Jean Molongoy?
Dans les provinces, la justice se porte plus ou moins bien, mais nous avons toujours le même problème que nous cessons de soulever, c'est le problème de manque de magistrats. Donc le nombre de magistrats est assez limité et le travail ne se passe pas comme il le fallait. Il y a aussi les problèmes matériels, hein, les moyens. Nous, on n'a pas des ordinateurs pour travailler à l'époque où nous sommes de l'informatique. Donc, on travaille avec des anciennes machines. Et il y a aussi le problème des moyens, par exemple, de déplacement. À Kindu, par exemple, je suis le procureur de Kindu, mais du Maniema. Donc, normalement, je devais être mobile.
Je devrais circuler dans toute la province.
Pour aller de Lubutu à Salamabila, de Kalima à Kibombo, mais on est limité juste à Kindu. Donc, on ne sait pas faire notre travail au niveau optimum. Donc, on fait ce qu'on peut faire.
Alors, le problème, par exemple, du nombre de magistrats, à quel niveau ça peut être résolu?
Justement, avec la loi du Conseil supérieur. C'est le Conseil supérieur actuellement qui s'occupe des magistrats. Donc, à partir de leur recrutement jusqu'à ceux qui vont commencer à monter des grades, donc le recrutement concerne le conseil supérieur. Donc, dès que le conseil supérieur sera là, selon ce qu'on a appris, il pourrait y avoir un recrutement d'un grand nombre de magistrats pour renforcer l'équipe.
Je vous invite, Jean Molongoy, à écouter cette première question qui nous vient de Kindu Omanyema.
Je m'appelle Monsieur Kamango Akusomba. Je suis agent de l'État à la division provinciale des finances. Je voudrais poser la question au procureur de la République près le tribunal de grande instance du Maniema sur le code de procédure judiciaire. Selon ces codes, les OPJ, dans leur devoir quotidien, sont tenus pour tous les actes qu'ils ont à poser au préalable de faire les constats sur les procès verbaux. Il en est de même pour les interrogatoires qu'ils font aux présumés coupables. Les officiers de police et judiciaire à la brigade routière se complaisent de saisir et les documents et les engins, notamment les motos, les véhicules, sans avoir établi aucun procès verbal. Comment on laisse faire ces gens comme si après dire que ce sont eux?
Réaction Jean Molongoy, procureur du Maniema.
Merci. Sa question est pertinente. Hein. Un OPJ, tout acte qu'il pose doit l'être par écrit, notamment par un procès verbal. Comme disait le professeur Lufumbwa qui est décédé, paix à son âme, le procès verbal, contrairement à ce qui s'est dit, n'est pas verbal. Il doit être écrit. Donc, ce que le monsieur soulève là est un grand problème. Et à Kindu actuellement, j'ai commencé par d'abord recenser les OPJ. Après le recensement,
il y en a à peu près combien?
Actuellement, je n'ai pas encore le chiffre en tête parce que il faut recenser et les OPJ de la police, et les OPJ des entreprises, et les OPJ de division, comme lui-même là, il peut être aussi OPJ de division de finances, de mines, de l'économie. Donc après le recensement, je pense qu'à ce moment-là, on va commencer à les contrôler. Un OPJ normalement est coté par le procureur de la République. Donc, et cette cotation peut servir dans son avancement, dans son travail de tous les jours. Alors, un OPJ qui pose ces actes-là, comme l'a décrit monsieur votre auditeur, est poursuivi pour les infractions qu'on peut constater. Là, il s'agit plus d'une saisie. C'est une extorsion quand vous prenez le bien d'un citoyen sans au préalable dresser un procès verbal ou ici
en bonne et due forme
pour garantir son bien. Donc, vous êtes en train de lui extorquer. Donc, ces personnes-là qui subissent ce genre
d'exactions
peuvent saisir soit le procureur de la République, soit l'auditeur militaire pour s'occuper de ces OPJ.
Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Jean Molongoy Kasongo, vous êtes ancien procureur de la République affecté à Ouvira et à Likassi. actuellement, vous occupez les mêmes fonctions dans la province du Maniema. Je vous invite cette fois-ci à aller en Ituri, dans la province orientale, où le directeur de la prison a demandé la libération d'une centaine de détenus qui avaient déjà purgé le quart de leur peine à la prison centrale de Bounia. Selon lui, c'est pour permettre de désengorger la prison centrale de Bounia, qui fait face aux problèmes chroniques de surpeuplement depuis plusieurs mois. Ce surpeuplement, qui représente aujourd'hui plus de 3 fois la capacité de la prison, favorise aussi les évasions et la propagation des maladies au sein de la prison. Isaac Rimoyope.
Au total, 113 détenus doivent bénéficier de cette libération conditionnelle sur 647 prisonniers que compte actuellement la prison centrale de Bounia. Parmi ces personnes, il y a 72 civils et 42 militaires. Selon les directeurs de la prison centrale de Bounia, ce sont des détenus qui ont été condamnés à des peines légères et qui font preuve de bonne conduite dans les lieux de détention. Les dossiers de ces personnes ont été soumis au procureur près les parquets de grande instance de Bounia le mardi dernier pour expédition au ministère de la Justice à Kinshasa. Il a déclaré que cette démarche vise à améliorer les conditions de détention des prisonniers qui se sont détériorés à cause des problèmes de surpeuplement à la prison. Il déplore notamment la recrudescence des prisonniers malades et des tentatives d'évasion et les problèmes de sous-alimentation des détenus dont la plupart souffrent de malnutrition. Ces informations sont confirmées par les autorités judiciaires qui déplorent également ces problèmes de surpeuplement. Selon le procureur du parquet de l'Ituri, il a reçu également l'ordre de sa hiérarchie depuis environ une semaine de transmettre aussi les dossiers de certains détenus pour une éventuelle libération. Bounia, Isaac Rimoyope, Radio Okapi.
Merci Isaac Rimoyope. Jean Mlongoy, procureur de la province du Maniema. Là, nous étions en Ituri en ce qui concerne l'engorgement des prisons. Quelle est la situation des prisons au Maniema?
C'est la même situation, hein. Non seulement les prisons sont surpeuplées, en même temps elles sont délabrées. Je pense que ça c'est une des solutions, mais elle est légale, hein, la libération conditionnelle. Dès que vous avez accompli un quart de votre peine, vous avez le droit de bénéficier de cette libération qui est accordée par le ministre de la Justice, sur proposition du directeur de la prison. Et en ce qui concerne les prisons du Maniema, donc la situation est presque la même. Et notre directeur aussi a fait la même chose. Il reste à ce que nous donnions notre avis sur les personnes qu'il a désignées pour qu'on transmette ces dossiers de libération conditionnelle au niveau du ministre de la Justice.
De Bounia à Ituri, je vous invite à rentrer à Kindu Maniema où nous prenons cette deuxième question.
Monsieur Pierre Zachary Lokonga, nous aimerions savoir, nous activistes des droits de l'homme, comment se fait-il que les prisonniers qui sont aux arrêts, qui sont en détention, ne mangent pas convenablement? Ils n'ont pas de lit. Être prisonnier ne signifie pas que vous devez être privé de tous les droits. Je voulais aussi poser à Monsieur Mulongo Ikasongo les problèmes des infrastructures judiciaires. Parce que quand je vais au bureau du parquet, par exemple, j'arrive là-bas pendant la saison pluvieuse, vous allez trouver il y a des documents qui sont mouillés. Quelles sont les démarches qu'il est en train d'entreprendre pour réhabiliter au moins ces infrastructures?
Réaction Jean Mulongoy. Le problème d'infrastructure, vous l'évoquiez déjà au début. Que répondez-vous à cet auditeur?
Bon, à cet auditeur, je réponds que cela ne dépend pas de moi. C'est le ministère de la Justice qui peut envisager la construction des autres,
lieux de détention,
des lieux de travail pour les magistrats. Donc, nous, c'est les lieux qu'on nous donne, c'est là où on travaille. Donc, nous déplorons en même temps que lui cette situation.
Il voudrait savoir quelles sont les démarches que vous menez pour améliorer ces conditions de travail.
Nous faisons nos rapports adressés à la hiérarchie sur l'état des lieux de notre lieu de travail et sur tout ce que nous faisons.
Restons à Kindu pour prendre la dernière question de Pierre Zachary.
Je voulais savoir comment se fait-il que dans le milieu de détention, on met eux les femmes et les hommes. Par exemple, vous allez dans les cachots au cas Mopaya, à Longoli. Vous allez trouver eux les femmes et les hommes sont mis dans un même cachot. Ce n'est pas une occasion de continuer à faire monter l'échelle des violences sexuelles dans mon milieu.
C'était la Pierre Zachary Lukonga. Jean Mlongoy, que lui répondez-vous?
Je réponds que cela n'est pas possible. Hein. Les détenus sont toujours séparés, en commençant par la prison elle-même Et au niveau de Zanigo, ce qu'il dit là, c'est à vérifier. Je ne pense pas qu'au niveau de Cachon, on mélange et homme et femme et enfant. Non, on doit les séparer.
Et lui, en tant qu'activiste de droits de l'homme, donc, vous rejetez en bloc ce qu'il dit?
Je ne pense pas. Ce n'est pas possible.
Mais à votre niveau, en tant que procureur de la République, quels sont les efforts que vous pouvez faire dans l'amélioration des conditions de prisonniers?
D'abord, presque chaque samedi, nous faisons le tour des cachots. Avec le peu de magistrats que j'ai, j'organise l'inspection des amigos pour vérifier ce qu'il dit là, les conditions de détention, les conditions légales, c'est-à-dire s'il y a le respect des 48 heures légales et s'il y a les conditions, c'est-à-dire si les personnes sont détenues dans de bonnes conditions hygiéniques.
Et quel est le constat?
Le constat, souvent, c'est que les cachots ne sont pas dans de bonnes conditions, mais nous faisons des reproches aux commandants qui gèrent ces cachots-là pour qu'ils essayent d'améliorer les conditions hygiéniques de détention.
Mais un autre problème, Jean Molongo, c'est le problème de la corruption. Certaines personnes se plaignent du fait que pour qu'un jugement soit rendu de façon équitable, il faudrait soit donner des choses en nature ou payer de l'argent. Qu'est-ce que vous en dites?
Ce que je peux en dire, c'est que c'est un problème de conscience personnelle hein, de chacun. Je suis magistrat, j'ai ma conscience en moi, je ne peux pas parler pour tout le monde. Donc s'il y a ces cas-là, moi c'est que j'ai toujours demandé aux personnes qui vivent cela de les dénoncer, de ne pas en parler en coulisses. Si un juge vous demande quelque chose, il a sa hiérarchie, il y a les autres échelons auxquels on doit se référer pour dénoncer. Et plus on dénonce, plus l'envie de se faire corrompre va baisser. Actuellement, le statut de magistrat élève au niveau de faute disciplinaire le fait pour un juge de trop traîner avec
un dossier.
Avec un dossier, vous allez vous dénoncer et il sera poursuivi soit disciplinairement ou soit pénalement s'il y a de fautes pénales constatées.
À votre niveau, en tant que procureur du Maniema, est-ce que la population connaît ses droits? Connaît les textes, par exemple, les procédures pour amener une affaire en justice?
Bon, c'est toujours mitigé. Il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. C'est pour cela que vous entendez qu'on parle de corruption, de tout ça. C'est un mélange. Hein. Il y en a qui confondent les faits de justice à de la corruption. Il y en a qui confondent les affaires civiles à des affaires pénales. On confond tout. Donc, c'est aussi le niveau d'instruction de la population qui fait qu'il y ait cette confusion. Donc, étant donné qu'actuellement, on est dans une phase de démocratisation, il y a la population civile qui commence à apprendre comment les choses doivent se passer. Et je pense que ça va aller en s'améliorant.
Et vous, en tant que procureur du Maniema, quelle impulsion vous pouvez donner dans ce sens-là pour que la population soit informée régulièrement des différents changements des procédures?
Bon, en tant que procureur du Maniema, je peux dire que j'ai eu la chance, en arrivant dans le Maniema, que le tribunal des droits de l'enfant soit soutenu par Avocats sans frontières. Et nous avons fait avec le tribunal presque le tour de tout le Maniema. Donc, je pense qu'on ne va pas aller, nous on est magistrats, on ne va pas aller faire des sensibilisations. Mais le fait que le tribunal soit là, que les gens puissent venir déposer leurs plaintes, que les gens puissent venir comparaître en public, pour nous, nous pensons qu'il y a une certaine formation que la population est en train de recevoir et que il pourra en tirer bénéfice.
Comment entrevoyez-vous la justice au niveau des provinces pour l'avenir?
Bon, non seulement au niveau de province, au niveau de
du pays.
Du pays, hein, la justice, c'est le socle de la démocratie. Moi, j'ai foi en la justice et j'ai toujours invité mes compatriotes à avoir foi. Au lieu de toujours dire qu'il y a des corrompus là-bas, on ne va pas vers la justice et après, quand les problèmes deviennent plus chauds, on va encore saisir la justice. Donc je pense que nous devons tous faire un effort pour avoir foi en la justice, parce qu'il n'y a que elle qui peut départager les gens qui sont en conflit.
Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Nous avons contacté quelqu'un qui vous connaît. Je vous invite à suivre le témoignage qu'il fait de vous et on se retrouve après.
Je suis M. Molongoy Alfredo. Je suis le frère de M. John Molongoy. Nous sommes d'une famille de 4 garçons. Donc moi, je suis le second par rapport à M. John.
Dites-nous, vous qui êtes l'un de ces jeunes frères, quel genre d'enfant était-il quand vous grandissiez?
Non, John, c'était un enfant pas turbulent, un enfant comme tous les autres. Il aimait jouer au foot et qui aimait aussi la musique.
Dans les relations entre frères, on le sait, ça ne manque pas. Vous arrivez-il qu'il vous tabasse ou qu'il vous brime un peu comme ça?
Non, en tout cas, ça ne manque pas quand on est dans une famille de garçons. Et puis, spécialement moi qui venais juste après lui, on s'est chamaillé, il y avait la bagarre tout le temps. C'est un grand frère, comme tous les autres grands frères, qui protégeait son petit frère. Il aimait de temps en temps, quand il partait à l'école, m'amener des choses, des cadeaux. Et c'était un frère attentionné par rapport à son petit frère.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez lui?
Bon, chez lui, je ne vois pas. C'est quelqu'un
qui est parfait.
Pas tellement parfait, mais qui m'inspire beaucoup de choses. Qui, en tout cas, en lui, je vois un exemple.
Il est avec nous au studio. Pouvez-vous lui adresser un petit message?
Bon, un petit message, c'est par rapport à ce qu'il fait comme travail. Je l'encourage dans ça, parce qu'il est toujours à l'intérieur du pays. Je sais que la famille lui manque beaucoup aussi, mais bon, c'est le travail qu'il a choisi de faire. Et je pense que dans ça, comme c'est ce qu'il aimait en tout cas par rapport à ce qu'il a fait comme étude, il se retrouve. Donc, je lui dis bonne chance et que dans le futur, qu'il arrive à obtenir ce que son cœur a toujours voulu.
Si vous étiez demandé de lui dédier une chanson, ce serait laquelle et pourquoi?
Bon, pour la chanson, en tout cas, moi, je pense à Mobila. Pourquoi? Parce qu'il aime la musique congolaise et puis c'est Kofi qui l'intéresse le plus.
Merci beaucoup, Monsieur Alfred Moulongo, et bonne journée.
Ok, je vous remercie.
Jean Moulongo, je vous ai vu au début cligner les yeux, vous vous demandiez ce serait qui, et à certains moments, je vous ai vu rire, j'ai lu une certaine émotion sur votre visage. Comment vous réagissez au propos de votre frère?
D'abord, beaucoup d'émotions parce que on est frère, mais on ne sait pas ce que l'autre pense de vous. Hein. C'est la première fois que j'entends Alfred parler de moi, et en direct dans mes oreilles, bon, ça fait quelque chose.
Vous le tabassiez quand vous étiez petit, vous lui apportez des choses aussi, mais qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous-même, parce que lui n'a pas pu nous le dire?
Ce que je n'aime pas en moi, c'est un peu ce qu'il a dit, hein. Tout le monde me demande pourquoi tu as l'intérêt, c'est que je suis trop sûr de ce que je veux.
De vos choix,
de mes choix. Donc si je dis je veux faire ça, même si on tente de me conseiller, je ne change pas, je ne change pas. Et des fois, je me retrouve que c'est contre moi-même. Et je me dis, si j'avais suivi tel, peut-être que ça ne serait pas arrivé ainsi. Donc, je suis responsable de mes choix et je ne change pas sur base des conseils des autres.
Et vous assumez même les conséquences.
Oui.
Il nous a aussi révélé que vous étiez fan de Kofi Olomide et il vous a dédié Ngobila. Vous aimez beaucoup Kofi?
Oui, beaucoup. C'est depuis l'université, hein, parce que il a commencé à émerger au moment où nous étions à l'université, vers les années 80, et avec les amis au campus, on s'échangeait les chansons qu'on écoutait, et ce que j'aime en lui, c'est découvrir les paroles que les autres n'arrivent pas à sentir, et surtout l'utilisation par lui dans la langue de Lingala des figures des styles.
Vous connaissez un peu les paroles de la chanson Ngobila?
Je ne sais pas chanter quand la chanson ne passe pas. Hein. Donc, je connais les paroles, mais de moi-même, je ne suis pas un bon chanteur. Thank you.
Pour terminer cette émission, quel message pouvez-vous adresser à la population du Maniema qui vous suit en ce moment?
Bon, la population du Maniema, en particulier aux Congolais, moi je suis un magistrat et j'ai confiance en notre justice. J'appelle aussi mes compatriotes à avoir la même confiance en notre justice pour qu'elle puisse se défendre. Parce que tant qu'on la garde de loin comme un pestiféré, donc on ne sait pas l'utiliser, on n'en aura pas les fruits qu'on doit en récolter.
Jean Moulongo, merci d'être passé à Grand Témoin.
C'est moi qui vous remercie de cette opportunité que vous m'avez offerte.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions Jean Molongoy Kasongo, ancien procureur de la République, affecté à Uvira et à Likasi. Actuellement, il occupe les mêmes fonctions dans la province du Maniema. Merci à Sylvain Baogwere qui était à la réalisation et à la technique, à la présentation à la Hirung. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci à tous ceux qui nous suivent à Kasongo dans la province du Maniema et partout dans le monde.